102.3
RLP
Bazar.
Et vous,
vous.
Bazar. Et vous.
Expert en rien, s'intéresse à tout. Et vous.
Nous venons de prendre le contrôle de ce média. Le message qui s'apprête à être diffusé est de la plus haute importance.
Le gouvernement vous manipule.
Vous manipule.
Vous êtes en permanence surveillé par le biais de vos téléphones.
Toutes vos conversations et vos recherches sur Internet sont archivées afin de constituer un dossier qui vous leur permettra de mieux vous contrôler.
Les messages subliminaux vous sont constamment envoyés par le biais des informations, de la publicité et même de vos artistes préférés. De mieux vous contrôler.
Ne consommez plus l'eau du robinet. Elle a été contaminée par des substances psychoactives
afin de vous maintenir dans un état
de semi-hypnose pour permettre aux reptiliens qui ont infiltré la société. Mais... Et... Oh.
Salut.
Hey, salut.
Mais qu'est-ce que tu fais là tout
ouais.
Seul
je testais les micros. 1, 2, 1, 2.
Ok,
un,
cool.
Deux.
Bah, du coup, c'est le son est ok.
Ouais, c'est bon. Ouais, c'est cool.
Ok, cool.
Ouais. Ouais. Je vois, je passais, tu vois, je me suis dit...
J'avoue, c'est chelou, hein. Benjamin en avance, c'est...
C'est étrange.
Bon, ok. Bon, c'est une bonne journée, du coup.
Ouais.
Impeccable.
Ok.
Impeccable. Ok. Eh ben, c'est parti. Buenos dias, mes petits mariposas. Que c'est bon de vous retrouver à chaque fois. Moi, ça me remplit de gratitude et de reconnaissance éternelle. Et mes petits watoussis. Aujourd'hui, c'est la 10e du bazar et vous. C'est fou, c'est dingue, non?
Oh, t'as 10 émissions.
Non, mais grave. Oh,
là, bravo.
Et une dinguerie, comme diraient les Parisiens. Et cette aventure... il fallait la placer quand même. Et cette aventure continue avec toujours à mes côtés mes deux andouilles préférées, Thomas et Benjamin. Comment ils vont, les petits loupiots, là?
Ça va, jusqu'à ce que tu me traites d'andouille, mais sinon, ça va.
Oh, il est tout si susceptible.
Oh, je suis une saucisse.
Aujourd'hui, du coup, c'est la 10e. C'est aussi le début d'une nouvelle année, et qui dit nouvelle année, dit aussi changement, renouveau, nettoyage and positive attitude. D'ailleurs, moi, j'avais envie de changement, là. En plus, c'est la 10e de l'émission, donc c'est l'occasion d'être un peu... Donc je vous propose, les garçons, afin de vous reconnecter à ce que vous êtes sincèrement au plus profond de vous et de vibrer juste, d'utiliser votre nom indien pour le reste de l'émission.
Et pourquoi ?
Non, c'est pas celui-là. Ce que j'ai cherché et j'ai trouvé dans mon bouquin sur le chamanisme, qu'en fonction de votre position de naissance, la taille de votre nez et le volume sonore de votre premier cri quand vous naissez, oui, c'est d'une précision redoutable, que l'on peut déterminer son surnom indien. Thomas, ton nom indien, c'est Castor Mortel.
Ah mais ça m'amuse, comment t'as eu accès à mon cri de naissance?
J'ai mes sources. Voilà, je suis une professionnelle. Benjamin, tu es aigle bigleux.
Oh.
Quant à moi, je suis tigre magnifique.
Oh, bah.
Non, j'avoue, je suis saumon festif. Voilà.
Donc...
tu es frétillante.
Exactement, donc un castor, un aigle, un saumon, pour vous servir sur ce 10e round avec des rires, des blagues, des doutes, des proutes, des surprises.
Elle a dit prout.
Ouais. Mais surtout un super moment. Alors let's go.
Et vous?
Au sommaire, Castor Mortel nous parlera de son sujet adoré, à savoir le langage, mais pas n'importe comment. Non. Ici, Castor Mortel nous parlera. C'est perturbant. Nous parlera de langue de bois, de symbolique et de complotisme. Enfin les réponses, grand maître. Aigle Bigleux, il abordera le complotisme au cinéma. Et enfin, moi, saumon festif, je clôturerai cette émission par une expérience personnelle à laquelle j'ai cru jusqu'à aujourd'hui. On démarre sans plus attendre avec Castor Mortel et sa chronique sur le langage. Envoyez le jingle.
Dire l'essentiel.
Trois fois oui, nous sommes.
Cette mutation administrative.
Pour retrouver.
La gueule. En fait, pastille, c'est un jeu de mots.
Oui, mais moi j'avais compris.
Chut, ça commence.
Bah, salut mes petits Canadiens. Et bah, aujourd'hui, Castor Mortel, il va vous parler de comment faire des garages dans des barrages.
Ils sont très connus pour ça, les Castors.
Alors, c'est parti.
Mais de quoi veux-tu nous parler, Père Castor?
Vous avez fini de rire?
Oui.
Parce que le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui ne me fait pas du tout rire.
Oh.
Ça fait un moment maintenant que je vous parle, tu sais, de toute cette rhétorique de la manipulation, hein, la langue de bois, les arguments moisis, la langue de pouvoir. Mais on s'est jamais posé cette question primordiale. Pourquoi ça marche? Et je rappelle que cette rhétorique de la manipulation, ça ne concerne pas que la politique. On la retrouve dans la publicité, dans nos conversations, dans le New Age et dans le complotisme. Alors, pourquoi ça marche?
Pourquoi ça marche?
La symbolique. Cette espèce d'obsession primitive que l'on a pour les symboles, les concepts, les histoires. Cette fascination que l'on a pour la symbolique, des gens comme Steven Spielberg, Elon Musk ou encore Guy de Maupassant l'ont très bien comprise. Leur point commun, chacun avec leur style, ce sont de très bons conteurs d'histoires. Et moi, du coup, il y a une bande dessinée que j'aime bien et qui parle de ça, c'est Sapiens 2. Une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. En fait, moi, il y a surtout un truc qui m'a marqué. Alors, je sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais dans le monde animal gargantuesque qui nous entoure, qu'est-ce qui fait que notre espèce Homo sapiens soit devenue l'espèce dominante? C'est quoi le trait numéro 1 qui a fait de nous les maîtres du monde? Alors moi...
Non, je ferme ma gueule.
ça vole haut cette émission.
Oh, non, j'allais dire les outils.
Ah, j'ai compris, les zouzous.
Et puis c'est grâce à nos zouzous, bien évidemment. Il y a peut-être de ça. Moi, au début, je pensais que c'était notre gros cerveau, tu vois, ou notre endurance, notre capacité à stocker de la graisse. La force physique, sûrement pas. Va tenter la bagarre contre un puma. Dans tous ces domaines, en fait, on va se faire surpasser par tout un tas d'autres espèces. Le meilleur exemple, c'est l'homme de Néandertal. Un cerveau plus gros que le nôtre, une force physique et une endurance bien supérieure à la nôtre. Et c'est à ce moment-là de la BD que je suis tombé des nues. En réalité, le trait numéro 1 qui a fait de nous l'espèce dominante, c'est notre capacité à raconter et surtout à croire aux histoires. Imaginez un petit peu la scène. Un homme de Néandertal débarque au milieu de ses amis de Néandertal et... il leur dit « Venez les gars, on va chasser un mammouth, ça va nous faire plein de nourriture !» Le Néandertal étant très pragmatique, ses amis vont lui répondre « Mais pourquoi faire? On n'a pas besoin d'autant de nourriture et en plus c'est super dangereux !» Fin du débat, ça s'arrête là, on n'en parle plus jamais. La même situation version Homo sapiens, c'est-à-dire nous. « Venez les gars, on va chasser le mammouth !» J'ai une vision mystique dans laquelle il m'a été révélé que l'essence de la toute-puissante nature se trouve dans la chair de cet animal sacré. Réaction de ses collègues, on est chaud, c'est parti. Bon, après attention, hein, on va pas croire toutes les histoires qu'on nous raconte. On n'est pas des auditeurs de Radio Courtoisie. Pour aérer le père en force. Je sais même pas qui connaît Radio Courtoisie, et tant mieux franchement. Dans un premier temps, on va adhérer à des histoires qui nous parlent, qui nous font ressentir quelque chose dans notre petit corps fragile. Et ensuite, c'est un biais cognitif qui va prendre le relais et nous convaincre définitivement de plonger tête la première dans le bassin de la station d'épuration. Ce biais qui nous fait adhérer sur la durée aux histoires, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire notre tendance à croire à des discours, des concepts, des histoires qui vont aller dans le sens des histoires que l'on a déjà en tête. Une expression bien de chez nous qui résume cet état d'esprit, chacun voit midi à sa porte. Bon, on va s'arrêter là pour la théorie. Maintenant, on va se détendre et s'intéresser un peu aux éléments de langage du complotisme. Alors, gardez en tête un petit peu ce que je viens de raconter jusque-là, hein, notre attachement primitif aux histoires et notre tendance à y croire, et ce, quelle que soit la véracité de ces histoires. Complotisme, est-ce que je peux avoir une définition? Oui, je vais te la donner, merci Thomas. C'est un discours, une histoire qui décrit un événement survenu suite à une action planifiée et dissimulée d'un petit groupe d'individus, humains ou non. Pour faire une belle histoire complotiste, il vous faut plusieurs éléments de langage. Je vais vous en présenter quelques-uns regroupés en petites familles de rhétorique. Déjà, on va commencer par une moisissure argumentative, rappelez-vous, l'appel à l'évidence. Nul n'ignore que, tout le monde le sait. Ensuite, on va rappeler que ce sont nous les victimes. Il n'y a plus de travail à cause de l'immigration organisée. C'est l'école et leurs histoires de LGBTP je sais pas quoi qui font vriller nos enfants. Et paradoxalement, on va faire passer toute cette rhétorique moisie pour de l'esprit critique. Même un enfant de 5 ans comprendrait. Je ne suis pas un mouton, j'ai fait mes propres recherches. Et pour finir, le coup de grâce, on se cache derrière le numéro 1 de la rhétorique moisie, l'argument d'autorité. Des chercheurs rejetés par la science officielle ont montré que ma pensée est fondée sur de très nombreux témoignages. Une fois que vous avez assimilé toutes ces petites phrases, ces petits éléments de langage, vous pouvez choisir n'importe quelle histoire pour combler les trous. un exemple avec la Terre plate. Nul n'ignore que pendant des millénaires, les gens savaient que la Terre était plate. C'est à cause de l'école et leurs histoires de scientifisme je sais pas quoi qui font vriller nos enfants. Je sais de quoi je parle, ma pensée est fondée sur de très nombreux témoignages.
J'ai cru qu'il allait dire ça aussi.
Tu veux dire quoi ?
Ma prostate. La prostate me l'a dit.
Bah, tu sais quoi ? La même chose avec la prostate. Nul n'ignore que pendant des millénaires, la prostate a toujours dominé le monde. C'est à cause de l'école et de leurs histoires de biologie, je sais pas quoi, qui font vriller nos enfants. Je sais de quoi je parle, ma pensée est fondée sur de très nombreux témoignages.
Mais là, tu vois, ça marche bien comme ça, j'y crois.
Bon, etc., etc. Vous avez compris. Vous avez compris, parce que vous êtes extrêmement malin. Sans transition, tout de suite, on va faire un petit jeu.
Ouais, on adore les jeux.
Oh là là.
Allez, 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 parce que je trouve qu'il y a eu comme ça assez d'informations. Hein, on garde un peu tout ça en tête, mais on va jouer au petit jeu. Et je vais mettre du baume sur le cœur des complotistes convaincus, car je vous l'affirme haut et fort, des vrais complots, eh bah ben, ça existe, eh oui.
Ah, bah oui, parce que je vais vous parler des vraies choses, moi.
Sans plus tarder, le jeu. Lisa.
Ah, oui.
Benjamin.
Oui.
Toi aussi, qui nous écoutes.
Excuse-moi.
Oui.
Saumon festif et aigle bigleux, j'y tiens, c'est le thème de la 10e émission, voilà, c'est comme ça.
Sans plus tarder, le jeu, saumon festif.
Oui.
Trou de bague bigleux,
pardon. Ce n'est pas du tout mon nom.
Castor bigleux, c'est pas compliqué.
Aigle bigleux, mais non, c'est moi Castor bavard, non.
Castor mortel.
Castor mortel,
Castor
ouais.
Bavard,
un peu comme cette chronique. Et bien évidemment, toi aussi qui nous écoutes, tu peux jouer. Je vais vous raconter trois histoires de complot. Toujours avec ces fameux éléments de langage qu'on a vus juste avant. Et une seule de ces trois histoires est vraie, à vous de deviner laquelle. Première histoire.
Elle est fausse.
Tu es extrêmement intelligente, saumon futé.
Saumon fumé.
Ah, pardon. Non.
L'histoire. Yes. Thomas, Castor.
Castor. Première histoire. On ne va pas rappeler ici que les États-Unis d'Amérique, berceau de toutes les magouilles, a toujours eu un faible pour la manipulation des masses. Timéo, mon jeune fils de 6 ans, a déjà compris le véritable rôle de la CIA, celui d'une agence secrète, prête à tout pour prendre le contrôle de nos esprits. Notre histoire se déroule dans les années 60. J'ai eu accès à des documents top secrets qui rapportent la mise en place par la CIA d'un circuit de prostitution dans les bas-fonds de San Francisco. Les dames de joie, complices, avaient pour consigne de faire ingurgiter à leurs clients des drogues expérimentales surpuissantes, pendant que derrière la vitre sans teint, des agents d'un cynisme révoltant prenaient des notes.
Complètement vrai. Ça m'est déjà arrivé une fois.
Attends, est-ce qu'il faut, il faut écouter les trois histoires avant de répondre ?
Ouais, je sais déjà.
Oh, trop rapide.
Deuxième histoire. Nul n'ignore que le continent africain est corrompu jusqu'à l'os, laissant la place aux actes les plus immondes. Benjamin, l'aîné de mes enfants, qui est âgé de 4 ans, en a déjà conscience. Notre histoire se déroule dans les années 40 en Somalie, alors sous domination de l'Italie de Mussolini. En faisant mes propres recherches, j'appris que l'ethnie des Isas, puissante en Somalie, profita de la confusion coloniale pour orchestrer dans l'ombre un véritable nettoyage ethnique envers les Bantous, son ennemi de toujours. Avec l'aide de la police italienne, des milices se formèrent pour semer la mort dans les villages Bantous, desquels aujourd'hui il ne reste plus rien.
C'est pas drôle.
Mais non, mais...
Elle rigole d'un génocide.
Non,
mais... Eh oh, ouais, c'est bon. Hein.
Tiens, m'excuser auprès de tous nos auditeurs somaliens, on sait qu'ils sont nombreux.
Ouais.
Troisième histoire.
C'était beaucoup mieux.
Tout le monde connaît la barbarie dont a fait preuve le communisme. Même Lizo, mon petit dernier de 6 mois, en est déjà convaincu.
Benjamin et Lizo. Quoi.
Notre histoire, si cela ne vous dérange pas, se déroule dans les années 80 dans la ville de Novgorod, en URSS, l'actuelle Russie. Je sais de sources sûres, anonymes, que des expérimentations plus que douteuses ont eu lieu sur place. Le docteur Ivanov Propovitch, sous l'impulsion du KGB, a eu carte blanche pour mener ses expérimentations de transhumanisme. Prétextant offrir un repas chaud aux plus démunis, Il fit disparaître les plus isolés d'entre eux, après leur avoir sectionné un membre pour le remplacer par de la ferraille. L'objectif final étant de voir naître une nouvelle génération de soldats.
Oh, c'est tellement faux.
C'est celle-là, la fausse.
Attendez. Alors, selon vous, la 1, la 2 ou la 3, vous pouvez voter aussi chez vous. Envoyez
Laquelle est vraie?
Laquelle est vraie? Il y en a deux qui sont fausses, une qui est vraie.
Je me tâte entre les deux premières.
Il faut trouver la fausse, hein.
Faut trouver la vraie.
Faut trouver la vraie.
Ouais. Il y a deux fausses, une vraie.
Donc, si je te résume grossièrement, c'est ta CIA drogue, Somalie nettoyage ethnique, URSS, on fait des super soldats.
Ouais.
Pour moi, celle-là, elle est fausse.
Elle est totalement improbable.
Ouais. Donc, vous dites la 1 ou la 2? La 1.
Mais la 1, en fait, il y a déjà eu des histoires de CIA, de drogue, de trucs comme ça, on en a parlé.
Moi, je dis la 2 est vraie.
Mais la 2, malheureusement, ça sonne comme un truc potentiellement.
Vous êtes plutôt sur la 2?
Ah. Je suis plutôt sur la 2.
Roulement de tambour. C'est non.
C'était la une.
C'était la une.
Je savais.
Mince.
Et là, vous avez bien senti mon manque d'inspiration sur la troisième histoire. Merci de m'avoir écouté.
Eh bien, merci, c'était mortel.
Ouah, tel un castor.
Ouais.
Apprendre à prendre le temps de savourer chaque instant, d'apprécier le présent et de se faire plaisir. Goûter à cet instant, ce petit moment publicité.
Bazar.
Gwendoline est une jeune femme sans histoire. Et jusqu'ici, ça lui allait plutôt bien.
Bonjour, monsieur Grosjean.
Ah, bonjour, Gwendoline.
Alors, deux croissants, une ficelle, deux éclairs au chocolat, une tarte au citron et une baguette du soleil pas trop cuite, comme d'habitude.
Vous êtes parfaite.
Jusqu'au jour où elle va faire une rencontre des plus inattendues.
Ok, je suis folle. Je viens juste de voir ce furet me parler.
Gwendoline.
Le furet connaît mon nom.
Gwendoline, oh, le temps presse. Nous devons sauver le monde. Viens, suis-moi.
Venez découvrir l'incroyable aventure de ces deux êtres que jusqu'ici, tout opposait. Tout opposé.
Gwendoline et furet, vous êtes notre seul espoir pour déjouer cette conspiration.
Furet, cours, furet, cours.
Gwendoline.
Le temps des furets est révolu. Place aux belettes.
Y a pas à dire, ça me change des croissants.
Gwendoline, j'ai peur.
Furet, n'en profite pas. Enlève ta patte de mon sein.
Ah, pardon.
Furet, pauvre fou. Le nouveau film de Lucien Bernard. Cet été, dans vos salles, bande de petits bâtards.
Quand il fait froid, et quand il pleut, et quand on a la flemme, rien de tel que de se mater un bon film, n'est-ce pas? Mais attention, ne tombez pas dans le panneau, les films nous cachent sûrement des choses. C'est un complot! Et qui de mieux pour en parler qu'Aigle Bigleu? Envoyez le jingle!
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage.
Cinéma!
Mash-up. De la bouillie de cinéma.
Bouillie.
Est-ce que vous connaissez cette série qui s'appelle Les Documents Interdits?
Non.
Que de nom, tu connais?
Je vais dire vite fait ce que c'est. C'est une série de 13 courts-métrages diffusés sur Arte à la fin des années 80 et réalisés par John Teddy Philippe. Chacun de ces courts-métrages met en scène une histoire fantastique ou étrange montée à partir de fausses archives et accompagnée d'une voix off un peu inquiétante qui relate les faits. Et c'était précurseur de tous ces films en found footage façon Blair Witch ou Cloverfield. Et je dois avouer que quand j'étais adolescent, je me suis bien laissé berner, tant le procédé était convaincant. En plus du côté réaliste, je pense que ce qui m'avait plu, c'est le type d'histoire qui était raconté. Des histoires étranges avec des phénomènes mystérieux, ou des histoires mystérieuses avec des phénomènes étranges, c'est peut-être mieux. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que les théories du complot sont intéressantes, ce sont des histoires invraisemblables qui tentent de rendre floue la frontière entre le réel et la fiction. Bien sûr, le procédé est risqué, car de nombreuses personnes, comme l'adolescent que j'étais, ne remettent pas en doute ces théories. D'ailleurs, on ne devrait peut-être pas appeler ça des théories, mais plutôt des rumeurs de complot, ou carrément des légendes urbaines. Bref, le complotisme fait appel à tout un imaginaire qui lui est propre et qui forcément a servi de base au scénario de beaucoup de films. Et nous allons voir ensemble, à travers quelques-uns de ces films, les différents clichés autour de ces théories et tenter de comprendre pourquoi elles nous fascinent tant.
Oui, j'ai envie d'en comprendre.
Ah bah oui, bon, je vous promets pas qu'on va y arriver, mais on va tenter. Et on va commencer avec le film Complot. Eh oui, au moins le titre, il est clair. Hein.
Que je ne connais pas.
Eh bah, c'est normal. C'est
sans un grande peu... surprise.
Oui, c'est pas le plus connu. C'est un film réalisé en 97 par Richard Donner avec Mel Gibson.
Pas celui qui fait des kebabs.
8 juillet 1979,
Tous les pères des prix Nobel ont été rassemblés par des unités des troupes des Nations Unies. Vous me suivez? Et ils ont été contraints, sous la menace, à donner des échantillons de sperme dans des petits flacons en plastique qui sont entreposés dans les sous-sols de l'immeuble du Rockefeller Center sous la patinoire. Je voudrais pas être là quand ça va fondre.
Et c'est un chauffeur de taxi qui passe son temps à déblatérer à ses passagers des théories complotistes et conspirationnistes liées au gouvernement dont lui seul serait au courant. Et parmi les passagers, il y a l'assistante du procureur, Alice, interprétée par Julia Roberts, qui, touchée par ce personnage exubérant, prend la peine de l'écouter et va lui venir en aide plus tard dans le film. Sauf que ce chauffeur de taxi n'est pas aussi fou qu'on le pense, car on va vite se rendre compte que certaines de ses théories sont vraies. Là, il y a déjà deux gros clichés, celui du complot fomenté par les services secrets et celui du complotiste paranoïaque et déséquilibré, dont les murs de son appartement sont recouverts de coupures de presse et autres documents reliés entre eux, tels les pièces d'un puzzle qui, une fois réunis, nous donnera la clé du dit complot.
C'est pas chez toi, ça?
Je vois pas de quoi tu parles, hein. J'ai que les articles de l'ADL chez moi.
Oh.
Et c'est ce que j'aime dans ce genre de film, quand on donne raison à ces marginaux qui racontent des histoires complètement folles. C'est peut-être là une des clés de notre attrait pour les théories du complot, le simple fait de se dire « et si c'était vrai ?». Souvent, ces théories alimentent tout un tas de fantasmes qui, bien qu'inquiétants, nous aimerions voir prendre vie. C'est par exemple le cas dans le film de Kubrick « Eyes Wide Shut », où un médecin, interprété par Tom Cruise, va au cours d'une soirée mondaine retrouver un de ses amis qui est devenu pianiste et qui doit plus tard dans la nuit aller jouer dans un endroit secret. Tom Cruise, tout excité et intrigué qu'il est, va alors insister lourdement auprès de son pote pour qu'il lui indique comment se rendre à cette mystérieuse soirée. Et une fois sur place, bon, pour faire simple, il est question de sociétés secrètes constituées d'hommes riches et influents qui organisent des partouzes géantes.
Puis-je avoir le mot de passe, je vous prie?
Fidèle.
Exact, monsieur. Ceci est bien le mot de passe pour l'entrée. Mais puis-je vous demander le mot de passe de la soirée?
Ça n'existe pas, ça. Epstein.
Encore un cliché bien connu des théories du complot, celle d'une élite décadente qui se réunit en secret. Là, la frontière entre le fantasme et la réalité est assez floue, car plusieurs indices laissent penser que tout cela a été justement fantasmé par ce jeune médecin qui souhaiterait peut-être lui aussi faire partie de cette élite et assouvir sa libido. Et là encore, on peut se sentir attiré par l'idée que quelque chose de complètement fou et inaccessible se dissimule derrière une réalité en apparence fade. Et pour découvrir ce qui se cache derrière cette réalité, il faut en général mener une enquête. Car oui, quand il y a complot ou conspiration, il y a souvent investigation. Menée soit par un journaliste qui va, par exemple, investigation, j'ai dit un peu en mode Élise Lucet.
C'est trop bien entendu, toi, le début d'un épisode de Scooby-Doo.
Et ces investigations sont menées, la plupart du temps, soit par un journaliste qui va, par exemple, tenter de lever le voile sur une affaire d'État, comme dans le film Les Hommes du Président, qui retrace le parcours des journalistes qui ont dévoilé l'affaire du Watergate. Tu l'as peut-être vu, celui-là, non?
Je ne le connais pas.
Non, ok.
Watergate, Lisa?
Avec Tom Cruise,
c'est un parc aquatique. Tom Cruise.
Dans les personnes qui vont mener l'enquête, on peut retrouver aussi le cliché de l'espion à la James Bond, qui va déjouer les plans machiavéliques d'un grand méchant qui agit dans l'ombre, ou encore un détective qui va enquêter sur une disparition ou un meurtre qui cache quelque chose qui dépasse de loin le simple fait divers. C'est le cas, par exemple, dans le film Watchmen de Zack Snyder, tiré du comics éponyme écrit par Alan Moore, où l'on va suivre une ancienne bande de justiciers masqués opérant pour le gouvernement américain, dont l'un des membres a été assassiné. L'un d'eux, nommé Rorschach, décrit par ses anciens camarades comme un marginal et paranoïaque, encore une fois, va mener l'enquête sur ce meurtre qui dissimule, selon lui, une conspiration visant les justiciers masqués.
Le sang me giclait partout sur la figure. Le peu qui restait de Walter Kovacs est mort ce soir-là avec cette fillette. À partir de ce moment, il n'y a plus eu que Rorschach.
On prend alors plaisir à suivre en même temps que l'enquêteur les différents indices qui nous permettent d'élaborer nos propres théories quant à la finalité de cette conspiration et l'identité de son commanditaire. Dans un style entre guillemets plus réaliste, le film Under the Silver Lake use du même procédé, où l'on va suivre un trentenaire apathique résidant à Los Angeles qui passe son temps à épier ses voisins depuis son balcon façon fenêtre sur cour.
C'est toi ça, non?
Non, je vois pas de quoi tu parles.
Ah non, c'est moi.
Et ce jeune branleur va enquêter sur la disparition de sa voisine dont il est amoureux. Cette enquête va le mener à sillonner les recoins les plus sombres de cette ville mythique, propice aux fantasmes les plus fous et aux théories les plus clichés. Et ce qui m'a plu dans ce film, c'est que l'enquête est ici menée par une personne lambda, dont ce n'est pas le métier. Ce qui nous permet de nous identifier plus facilement au personnage, et ainsi nous imaginer nous-mêmes capables d'endosser la casquette d'enquêteur. Cependant, le cliché du personnage paranoïaque, obsessionnel et délirant persiste encore dans ce cas, mettant en doute la véracité de tout ce qu'il est en train de vivre. Comme si le déséquilibre mental était indissociable des personnes croyant aux théories du complot. Peut-être parce que les auteurs de ces histoires nous mettent en garde, nous spectateurs, sur notre rapport au complot qui bien souvent travestit le réel. En effet, même si l'imaginaire complotiste est propice à de bonnes histoires, il n'en reste pas moins dangereux dans certains cas. C'est ce qu'a voulu démontrer William Carell avec son film Objectif Lune. Je vais dire Objectif Nul, mais ça n'a rien à voir.
Objectif Nu.
Objectif Nu, un autre film.
Avec Tom Cruise.
Objectif Lune, donc, sorti en 2002 sur la chaîne Arte, qui se présente comme un documentaire prouvant que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et que c'est Kubrick lui-même, encore une fois, qui aurait mis en scène et filmé tout ça. J'ai oublié de vous dire que ce film a été diffusé pour la première fois un 1er avril. Et oui, c'est un gros canular que certains... canular que certains trouveraient de mauvais goût, car bien que le réalisateur ait donné de nombreuses conférences pour expliquer la manière dont il a monté toute cette histoire en utilisant le même procédé que les documents interdits dont je vous parlais avant, dans le but justement mettre en garde les spectateurs sur la manière dont on peut se laisser manipuler par les images, le montage et la manière dont une information nous est présentée, beaucoup de personnes continuent de croire aujourd'hui que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et pour conclure, j'ai choisi ce film car il me semble important de rappeler qu'il peut être tentant de croire aux théories les plus folles à une époque où la vérité est souvent remise en question à travers des théories du complot qui, quand il ne s'agit pas d'un canular ou une légende urbaine qui n'a d'autre but que de divertir, ont un véritable impact sur notre rapport au réel. Il faut rappeler que bien souvent, ce sont des groupuscules d'extrême droite qui propagent des théories aussi nauséabondes que celles du grand remplacement ou de la non-existence des camps de concentration. Exactement. Et qui, dans les cas les plus extrêmes, peuvent mener à des actions complètement folles et surréalistes et antidémocratiques, comme l'assaut mené sur le Capitole par des partisans de Donald Trump. Donc prenons ces théories pour ce qu'elles sont, de la pure fiction qui, dans le meilleur des cas, font de bons scénarios de films, et dans le pire des cas, des mensonges qui servent des intérêts de politiciens, entre autres, qui cherchent à diviser en attisant la peur et la haine.
Oh là là là. Alors. Il nous amène à réfléchir quand on regarde un film.
Oh, t'es fou, hein. T'es quand même très intelligent.
Je suis un zèbre, tout simplement.
Tes pupilles sont dilatées. Tu ne serais pas reptilien?
Mais on y voit plus clair maintenant.
C'est vrai.
Aigle bigleux.
Vous, est-ce que vous vous souvenez, je sais pas, la première théorie du complot à laquelle vous avez été confronté, peut-être étant enfant et tout? Moi, je me souviens, c'était le 11 septembre. Oh, avec Michael Moore qui avait son documentaire et tout, qui enquêtait là-dessus. Oh,
bah là, le dernier truc que j'ai entendu, moi, c'est passage dans la cinquième dimension, ou je sais pas, une espèce d'élévation d'âme. Il y a certaines personnes qui vont passer dans la cinquième dimension. Okay. Enfin bon, un truc comme ça, quoi. Tu vois,
yes.
Oui, j'ai déjà entendu parler de ce truc. Ça, c'est
très énergétique, tu vois.
Ouais, je la connais.
Elle est super vieille, ce truc-là. Ça date des années 70. Enfin, à minima des années 70, tu sais, le New Age.
Ouais. Là, ça revient parce que 2024, apparemment, c'est le passage. Ouais, tu passes ou tu passes pas.
Tu sais, c'est le genre de truc. C'est un peu comme les calendriers Maya où tout le monde dit c'est la fin du monde en 2012. Ma merde, on est encore là. Et après, ils vont dire non, mais attends, je l'ai tourné. En fait, c'est en 2032. En fait, ils vont trouver une excuse et ils vont te faire chier tous les ans en disant que la date a un peu changé, tu vois.
En tout cas, sur le truc du 11 septembre, moi, je me souviens, ce qui avait, donné du grain à moudre aux complotistes, c'est qu'il s'est avéré vrai qu'il y avait eu de fausses preuves qui avaient été faites quant à la possession d'armes nucléaires de la part de l'Irak.
Ouais.
Mais du coup, tu te dis, merde, si un gouvernement comme les États-Unis peuvent mitonner là-dessus juste pour y déclencher une guerre, là, tous les complotistes, ils sont donnés à cœur joie et ont tout remis en question.
Mes petits mérous, ici saumon festif qui vous parle. Si aujourd'hui le saumon est festif, il ne l'a pourtant pas toujours été. Saumon a dû nager fort à travers torrents, tempêtes et raz-de-marée, afin de gagner cet adjectif festif, cet adjectif qui aujourd'hui fait partie intégrante de sa vie. Saumon est heureux. Saumon a des projets.
Saumon ne tient pas à son personnage.
Mais c'est vrai que Saumon a ramé. Ramé.
Ça rame pas.
Ramé. Saumon a cru se noyer parfois, mais Saumon a ramé. Et maintenant, Saumon vit. Oh là là ! Comment Saumon a-t-il fait, grand-mère ? Envoyez le jingle.
Les choses arrivent. Comme un cheveu sur la soupe.
Vous l'avez tous compris, le saumon ici, C'est moi. Je vous ai bien eu avec la voix super bien faite de la grand-mère saumon. Hein.
Et moi, j'ai cru que c'était Edoui Plenel.
Eh ben non, c'était moi. Et oui, je n'ai pas toujours été cette petite frimousse qui court le sourire jusqu'aux oreilles le long de la voix verte périgourdine parce que c'est beau, qui danse dans sa longue jupe volante au rythme de l'accordéon parce que c'est beau et qui vit parce que c'est beau. Oui, je vous le dis, il y a eu des fins d'année où je n'avais que le goût froid et sombre de la solitude, la détresse et la souffrance en guise de mets, et pas du tout le cœur à sortir guinché. En boîte, par exemple. Saumon en boîte.
Là, je vais me jeter par la fenêtre, même si on est au rez-de-chaussée.
S'il te plaît, Thomas, j'ai pas fini. Oui, ne faites pas ça, d'ailleurs. Sortir en boîte, bon, déjà, c'est une chose interdite, mais sortir en boîte le jour du Nouvel An, c'est un acte désespéré. Ça devrait être ta dernière solution, comme essayer de couper Castor Mortel dans sa chronique parce que c'est trop long. Solution de recours, pas la première, tu vois. Parce qu'entre Kevin, 35 ans, amateur de poulet coco, qui te colle au cul parce que Kevin est venu seul et Kevin ne veut pas rentrer seul, mais Kevin sait qu'il rentrera seul. Cependant, Kevin tente. Kevin se plante. Kevin, s'il te plaît, sors de mon cul. Kevin. Kevin, tu ne me plais pas, Kevin. Alicia, trop bourrée pour traverser la piste de danse qui fait 3 mètres de long sans se péter la gueule 3 fois sur tes pieds en te disant ah, t'es trop drôle, t'es en direct, t'as un bonnet. Wow. Quand la personne n'arrive même plus à discerner tes cheveux d'un bonnet, c'est qu'il y a un problème, non ? Non, je suis une blague pas drôle qui se noie. Elvider qui te dit de faire moins de bruit parce que tu es trop heureuse et qu'il faut respecter la tristesse de chacun. Comment dire ? Je ne vais rien dire parce que ce n'est pas le sujet, je m'égare, revenons-en à notre saumon. Donc oui, comme 95% de la population, moi je m'en fous, j'invente des chiffres, j'ai vécu une petite dépression dans ma vie. Et c'était vraiment pas la fête du slip, tu vois. Tout était lourd, je pleurais tout le temps, je n'avais le goût à rien, je me forçais à faire les choses. Le quotidien d'aigle bigleux, quoi. Et quand tout va mal dans ta tête...
C'est toi avec poids de brouillard.
Quand tout va mal dans ta tête et que la couleur noire, c'est la couleur de ta vie, le moindre truc qui pourrait amener quelques petites nuances pastel de rose, de jaune, d'orange ou de bleu... Eh bien, tu prends. Tu es dans un tel moment de vulnérabilité et de fragilité que tu tentes plein de choses pour t'en sortir. Et sur le moment, tu y crois. Et c'est ça qui est fort, tu vois. Croire en quelque chose te donne de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Mais pourquoi vivre, grand-mère ? Ben, pour écouter les chroniques à rallonge et les envolées lyriques de Castor Mortel.
Vous êtes sur Mediapart, abonnez-vous.
Et à ce moment-là, quand j'étais au fond du fond dans le même seau qu'Aigle Bigleux, je vous jure que je vais le tenir jusqu'au bout, les gars, mon truc de surnom indien.
Je me casse.
Ce à quoi je me suis raccrochée, qui m'a fait du bien et auquel j'ai cru, eh ben, c'était tout ce qui est guidance, voyante, médium, numérologie, cartomancie et tous leurs amis magiciens fées et farfadés. Et alors là, mes petits léopards, là, je l'ai attendu, l'amour de ma vie, Arnaud, que l'on m'avait annoncé devant cette devanture de salon de coiffure doré et noir sur Bordeaux tout le mois d'avril 2020. Et il ne s'est rien passé, rien. Arnaud, t'es où ? Je l'ai attendu, cette vie de famille avec deux gosses, un garçon et une fille avec un an de différence, en précis, et de partir vivre en Espagne. Et où sont mes 2 400 € par mois ? Parce que là, j'ai repris mes petites notes, hein. J'ai été patiente, hein. Et il a été dit que fin 2023, début 2024, j'aurais acheté une maison et le départ pour un gros voyage se ferait. Alors, moi, je peux à peine acheter de la purée d'amande parce que ça coûte 12 balles le pot, je vois pas comment je peux investir dans une baraque. Et de quel gros voyage parlait-elle ? La plus grosse excursion que j'ai faite ces derniers mois, c'est d'aller jusqu'au Leroy Merlin de Marsac à 10 minutes en voiture pour m'acheter des poignées de douche. Non mais, vous me prenez pour qui ? Ça va durer longtemps ce bizutage ? Je suis pas du genre à me laisser berner, moi, hein. J'ai bien vu, après 3 ans d'attente, que... Eh, on m'a pas si facilement, hein. Ils ont profité de ma vulnérabilité. Mais ne t'inquiète pas, Aigle Bigleux, je ne les laisserai pas faire sur toi. À te conseiller et à te donner des détails d'une grande précision avec une date, une heure précise. Et toi, tu te dis, même vulnérable et fragile, orf, quand même, c'est gros là, c'est trop précis. La magie n'existe pas, Harry. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça te tient. Ça te persuade d'attendre et tu crois jusqu'au bout que tu vas rencontrer Arnaud. Et à la fin, tu es même surprise que ça ne soit pas arrivé. Oh bah pourtant, elle avait dit le 24 avril 2020, 9h42 devant le coiffeur. Je comprends pas, bah c'est bien là, j'y suis moi. Arnaud, where are you, Arnaud ?
Il était peut-être dans le salon.
Non, il n'y était pas là. Et voilà, 150 euros pour qu'on me pose un lapin. Oui, l'espoir, ça coûte cher. Et en plus, ils te disent d'aller acheter une grosse baraque et de partir en voyage avec deux gosses. Ça va, oui. C'est justement parce que je ne peux pas m'offrir tout ça que je suis mal, connasse.
Oh.
Et puis, il paraît aussi que j'ai un émotionnel fort, que je sais pas trop où je vais, que j'ai déjà vécu des obstacles, que je dois garder la tête froide et qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise. Tu vois, ces mots doivent résonner pour moi comme ils ont résonné pour toi, Aigle Bigleux. Comme 100% de la population, non? Tiens, petit test, castor mortel.
Oui?
T'as déjà vécu des obstacles dans ta vie?
Oh oui!
Eh ben voilà, ils nous envoûtent, ils nous bernent. Tu vois, il y a ceux qui, comme l'horoscope, te lâchent des petites phrases que sur le coup, tu penses vraiment personnalisées. Oh, émotionnel, oh, c'est tout moi, comment a-t-elle pu sentir à travers le combiné que je faisais partie de la lignée des enfants indigo? Mais dans lesquels, au final, tout le monde peut se reconnaître. Oui, parce que ça veut juste dire que tu fonctionnes correctement. Tu pleures quand on te dit merci, tu rigoles quand tu pètes et tu stresses quand t'as pas fait le petit caca, tu vois? Merci. Ici, rien n'est prédit. Aucun événement qui révolutionnera ta vie. Ou quoi, mais une invitation à l'introspection au final. Et ici, c'est ça que je trouve intéressant. Oui, parce que je râle, en bonne française que je suis, mais tout ça, je l'ai fait. Et il faut que je l'assume. J'y ai quand même trouvé un intérêt, tu vois. Ne me jugez pas, j'y ai trouvé un intérêt. Mais je sais, oui, l'introspection, ça coûte cher aussi. Mais quant à la volonté de comprendre comment tu fonctionnes, ce que tu peux ressentir, tes difficultés, et ben toutes ces petites phrases balancées par une personne qui te fait croire qu'elle parle de toi alors qu'elle parle de casseur mortel ou autre, à travers un téléphone après avoir payé 70 euros, eh bien peuvent t'amener à initier ce travail d'introspection, ce travail sur soi. Et à la limite, ces 70 euros peuvent être rentabilisés. Pas comme les 150 euros du lapin qui, en plus, m'ont fait passer à côté de potentielles rencontres et de belles histoires. Parce que moi, j'attendais Arnaud. Du coup, comment tu t'appelles?
Florian.
Ah bah non, je peux pas coucher avec toi parce que moi, c'est Arnaud, l'amour de ma vie. Je peux pas le tromper, je le connais pas encore, mais je sais qu'il va arriver dans un an, donc je vais être prête pour lui. Non mais elle s'est complètement plantée. Arnaud, plus, mais qu'est-ce que c'est moche comme prénom, jamais j'aurais pu être avec Arnaud. Bon, mais avec tout ça, le principal à retenir, c'est que je vais beaucoup mieux, qu'on vit nos expériences, ou plutôt on paye cher pour expérimenter, mais bon, ça fait partie de la vie aussi, hein. Et grâce à tout ça, grâce à mon bagage de vieux saumon, je peux vous le dire et je dois vous le dire, ne buvez pas tout ce que l'on peut vous raconter.
Merci, saumon. Merci. Fumé.
Et vous, les gars, vous avez déjà essayé de vous faire berner pour 150 euros?
Moi, je te parle plus, juste. Voilà. Déjà, alors attends, ça a commencé avec... déjà, lui, c'est mortel et toi, festif. Moi, c'est bigleux. Ensuite,
excuse-moi,
espèce de grosse merde qui reste chez lui à pleurer. Non, mais oh, ça va, hein?
Mais moi aussi, c'était pour te dire, on est tous les deux dans le...
Bien sûr, oui, bah voilà, c'est toujours sur moi que ça tombe. Comme ça, c'est encore un complot.
Elle a été blessée.
Mais vous avez déjà essayé de faire berner pour 150 euros? Vous avez déjà essayé ce genre
mais
de truc?
Mais jamais de la vie, ma pauvre Lisa.
Et ben voilà. Restez dans votre trou à pleurer votre maman. Parce que moi, du coup, je vais mieux.
Mais c'est l'effet Barnum, du coup, en fait, que tu décris. C'est le fait de je sais pas si vous vous rappelez de l'effet Barnum, si vous connaissez.
Oui.
C'est t'entends une histoire et ton cerveau, un peu naturellement, tu vois, il va se projeter dedans, quoi.
Tout ce qui est dit ici n'est évidemment pas la réalité. Aigle Bigleux se porte très bien, ne vous inquiétez pas.
Il faut rassurer mes parents un peu. Après, ils écoutent, ils s'inquiètent. Ils sont là, ah bon, c'est vrai. Et après, ils m'appellent tous les jours. Et bon, voilà, tu vois,
c'est la fin de ce 10e round du Bazar et vous. J'espère que vous vous serez amusés à nous écouter. Pour nous, c'est toujours un immense plaisir de créer tout ce bazar pour vous. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook du Bazar et vous. On y met les podcasts et des petits visuels rigolos créés par Castor Mortel. On vous dit à très vite pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien. Attention à vous. Et ciao, ciao.
Merci, Soma.
Arrêtez de respirer l'air.
Il est contaminé. Vous allez tous mourir.
Benjamin, arrêtez de conneries. Putain, viens ici.